Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Cour pénale internationale. Regard sur cette institution, 18 ans après sa création en 1998 et dont l'entrée en fonction est intervenue 4 ans plus tard, soit en 2002, sur la promesse d'un monde libéré de l'impunité. Qu'en est-il réellement aujourd'hui à la lecture de la géographie des actions menées par celle qui est chargée de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre? La Cour pénale internationale est-elle à la hauteur des attentes qui avait été placée en elle? Est-elle indépendante? Comment sa politique pénale est-elle définie? Attendue par certains sur la Palestine, l'Afghanistan, l'Irak, les enquêtes de la CPI n'ont jusqu'à présent concerné que l'Afrique. Quelles en sont les raisons? Nos invités, par téléphone depuis Bruxelles, Valérie Rozou, philosophe et politologue, enseignante à l'Université catholique de Louvain. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Stéphanie Maupas, journaliste, auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de Le Joker des puissants qui vient de paraître aux éditions Don Quichotte, un ouvrage sévère sur le fonctionnement de la CPI. Bonjour.
Bonjour.
Le procès Gbagbo, procès de l'ex-président ivoirien, doit débuter le 28 janvier prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Il devait initialement s'ouvrir le 10 novembre. L'ancien président ivoirien ainsi que Charles Blé Goudé, ex-leader des Jeunes Patriotes, sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à Alassane Ouattara à l'issue de la présidentielle de 2010. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Laurent Gbagbo est le premier chef d'État livré à la CPI. Cette dernière réclame également son épouse, Simone Gbagbo, mais Abidjan souhaite la poursuivre en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo a été condamnée dans un premier procès à 20 ans de prison pour son rôle dans la crise post-électorale. Le constat veut qu'entrée en fonction en 2002, après la ratification du statut de Rome par 60 pays, chiffre, vous allez nous le dire, Stéphanie Maupas, qui a doublé depuis et qui rassemble une majorité de pays africains et l'ensemble des pays de l'Union européenne, la CPI s'en est essentiellement prise à l'Afrique. On entre là d'une certaine manière dans la géographie des actions de la Cour pénale internationale. De fait, 9 pays ont jusqu'à présent été concernés. La République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Ouganda, le Kenya, la Libye et la Côte d'Ivoire. Comment expliquer cette réalité autour de l'Afrique, Stéphanie Maupas?
Alors, d'abord parce que il y a quand même beaucoup de crimes qui sont commis sur le continent et des crimes qui sont de la compétence de cette Cour. Donc déjà, il y a une logique, une légitimité à ce que la Cour intervienne sur le continent. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit, beaucoup d'États africains ont ratifié le traité de la Cour, ce qui fait que cette Cour est compétente pour poursuivre les auteurs de crimes commis sur leur territoire. Donc ça, ce sont deux choses très très claires. Et puis, après ça, il y a des choses dues au fonctionnement de la Cour. Au moment de sa création, la Cour avait besoin d'agir vite, en quelque sorte, pour asseoir sa légitimité, c'est-à-dire d'amener déjà quelques accusés dans le box.
Donner des résultats.
Donner des résultats, montrer qu'elle existe et montrer qu'elle a commencé à agir. Et le procureur s'est dit, eh bien, je peux conduire des affaires faciles, faciles dans le sens où politiquement, il avait une certaine marge de manœuvre. On n'allait pas l'empêcher d'enquêter. Il a commencé avec l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Sur l'Ouganda, il a poursuivi les chefs de l'armée de résistance du Seigneur, vous savez, cette milice du nord de l'Ouganda. Et personne n'allait s'opposer à des poursuites contre cette milice. Et donc le procureur avait comme ça une certaine marge de manœuvre. Sur l'est de la République du Congo, c'était un petit peu compliqué parce que les guerres de l'est congolais sont nourries par les puissances régionales hein, qui pillent en fait le pays, cette richissime région. Et donc le procureur s'est engagé à conduire des poursuites sur ce territoire, mais il a cerné ses accusations de telle façon qu'il n'a pas fait peur aux puissances régionales et qu'il les a en quelque sorte protégées. Je m'explique rapidement. Plusieurs chefs de milices ont été poursuivis, mais leurs crimes ont été essentiellement ramenés à des conflits ethniques. Or, ce conflit est beaucoup plus large que ça, puisque ce sont les puissances régionales, Rwanda, Ouganda, qui utilisent les conflits ethniques, qui les font revivre, qui les font réémerger, qui soutiennent différentes milices, différents camps à différents moments, pour pouvoir s'emparer des richesses de l'Est du Congo. Donc, en cernant comme ça ces accusations, en les limitant en fait à quelques chefs de milice et à une histoire qui est celle d'un conflit essentiellement ethnique, eh bien, le procureur avait des facilités à poursuivre puisqu'il n'inquiétait aucune puissance.
C'est cela, des seconds couteaux d'une certaine manière, des chefs de milice, en tout cas une version assez restreinte. Valérie Rozou, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Stéphanie Maupas ?
Oui, oui, ce qui est frappant pour moi en lisant l'ouvrage que j'ai beaucoup aimé, j'allais presque dire malheureusement, parce que je trouve qu'il est extrêmement aussi lourd, hein, au sens de la réalité qu'il décrit. Mais en vous écoutant maintenant, ce qui me frappe, c'est que vous dites ils commencent par des affaires faciles, ils ont une marge de manœuvre, ils essayent de ne pas faire peur. Or, précisément, la crédibilité d'une cour pénale, qu'elle soit internationale ou nationale, la crédibilité même de la cour dépend du fait qu'elle peut faire peur, qu'elle fait peur. Donc on va d'emblée ici le nœud, je trouve, d'une institution qui est politique, qui est en quasi constante négociation, alors que dans son principe, elle ne peut pas être politique. Vous parlez de joker, moi d'emblée j'ai envie de dire les dés sont pipés.
Stéphanie Maupas.
Oui, effectivement, hein, on s'y attendait en fait, avant même que la CPI soit mise sur pied, on s'attendait à ce que les États voient à travers elle la possibilité de faire avancer leurs intérêts nationaux. Donc, dans ce sens-là, les dés étaient pipés. Mais il me semble, et on l'avait vu un petit peu avec les tribunaux ad hoc, hein, pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, la Sierra Leone, il me semble que dans ces autres institutions, eh bien, les procureurs et les responsables de ces institutions sont parvenus, d'une façon plus importante en tout cas, à imposer leur propre mission, en fait, sont parvenus à contrer les États jusqu'à un certain point, bien sûr, mais sont parvenus comme ça à avoir un certain équilibre entre la politique et puis l'aspect judiciaire de leur mandat. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils ne perdaient pas de vue leur mandat qui était de poursuivre, alors qu'à la CPI, on a l'impression qu'on perd de vue ce mandat et qu'on essaie effectivement, comme vous l'avez dit, de négocier. Par contre, il me semble aussi que la Cour ne peut pas se départir de situations politiques. Elle enquête et conduit des procès sur des situations qui sont éminemment politiques. Donc il ne faut pas, à mon sens, qu'elle reste les yeux bandés, qu'elle ne voit pas ces réalités, parce que elle n'est pas là non plus pour... Enfin, plus largement, il me semble qu'elle est là plutôt pour contribuer à la paix et pas là pour semer le trouble. Donc c'est un équilibre qui est extrêmement difficile pour les procureurs et les juges.
Alors, la Cour peut pas. De fait, la question se pose de la logique de la CPI, avec ce sentiment que vous évoquez l'une et l'autre, d'une perpétuelle oscillation entre logique juridique et logique politique, sans finalement qu'il y ait véritablement ancrage dans l'une ou l'autre. Alors Valérie Rozou, vous évoquez la notion de peur. La question qui peut se poser, c'est effectivement de quoi la CPI a-t-elle peur ? Et à vos yeux, Valérie Rozou, la crédibilité de la Cour pénale internationale, elle est vraiment mise en question ?
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'elle ne peut pas faire peur aux puissants. Donc on est dans les deux sens. Oui, la crédibilité est en question, puisque un des espoirs, je pense, de toute justice, c'est qu'elle puisse avoir des effets dissuasifs. Donc regardez ce qui arrive, c'est la carotte et le bâton avec la punition possible. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut qu'elle puisse faire peur, parce qu'on sait que quand une enquête commence, ça risque vraiment d'aboutir à quelque chose de dramatique pour les gens qui sont accusés. Ce qui me frappe aussi en écoutant ici Madame Maupas, c'est quand on compare la CPI et puis de l'autre côté les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. En réfléchissant comme ça, je me disais qu'il y avait quand même peut-être une différence qui explique en partie, en dehors des moyens mis à disposition que je ne connais pas vraiment, mais en partie la différence en termes de réalisation, d'impact ou d'équilibre entre le politique et le judiciaire. C'est peut-être l'élément suivant qui est, me semble-t-il, que quand on a établi le tribunal pénal pour le Rwanda à Arusha et puis pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, dans les deux cas, me semble-t-il, dans les pays occidentaux, il y avait une terrible culpabilité. Donc une mauvaise conscience généralisée. Je ne sais pas si tous les citoyens belges, français, hollandais se sentaient coupables, mais je veux dire, en tout cas au niveau des responsables politiques, diplomatiques, c'était très très marqué, je trouve, pour des actes manqués, pour des actions qui n'ont pas été menées à un moment où on aurait pu anticiper le pire. En tout cas, la Belgique, quand elle a retiré ses casques bleus en avril 94 de Kigali, c'était... On ouvre la porte, on savait très bien avec le nombre de soldats qu'on avait à l'époque, on pouvait arrêter le génocide. Et donc cette mauvaise conscience, à mon avis, elle est lourde aussi, cette culpabilité est lourde, et donc c'est aussi rassurant, je pense, pour certains représentants, que les tribunaux aboutissent en disant, à défaut d'être intervenu à temps, au moins on a une espèce de rôle de chevalier. C'est une noble cause, hein, on est du côté de la blancheur, du bien, du vrai, du juste. Ça a du sens de rendre la justice. C'est une posture enfin avantageuse par rapport à des dossiers qui étaient d'un tragique épouvantable. Donc je me demande si ça n'a pas aussi permis que les procureurs soient plus incisifs. Qu'en Ouganda, ou pêche. Mais c'est vraiment une hypothèse, je ne sais pas.
Je vais poser la question à Stéphanie Maupas, et juste pour nos auditeurs, donc ces tribunaux internationaux qu'évoquait à l'instant Valérie Rozou, il y en a eu donc pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, et puis les tribunaux spéciaux pour le Sierra Leone, le Cambodge, le Liban, ils dépendent cela des Nations Unies, et non de la Cour pénale internationale, c'était juste une précision. Stéphanie Maupas.
Oui, effectivement, il y a quand même énormément de différences, c'est-à-dire la Cour est quand même compétente pour enquêter dans beaucoup de pays, donc forcément elle suscite la crainte et du coup sa réaction est d'essayer de calmer ces craintes-là de la part des puissants, comme je le dis, mais d'essayer de rassurer en fait les différents États qui sont membres de son traité ou qu'elle voudrait voir devenir membres de la Cour, puisque aujourd'hui quand même le fait qu'il y ait 123 États qui aient ratifié son traité, donc qu'il en manque beaucoup et qu'il manque notamment les États-Unis, la Russie, la Chine,
on va en parler,
la contraint de facto à conduire une justice à deux vitesses, c'est-à-dire qu'elle ne peut poursuivre que les ressortissants d'États qui ont ratifié son traité.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, les Africains critiquent beaucoup la Cour pénale internationale. D'une certaine manière, ils se sentent stigmatisés. Il y a un paradoxe qui veut qu'ils pourraient la quitter. Enfin, ils pourraient quitter le statut de Rome. Je parle sous votre contrôle, Stéphanie Maupas. Ils ne le font pas.
Ils ne le font pas, mais ils menacent. Donc c'est là encore où on voit cette utilisation de la Cour comme un outil, c'est que ils menacent incessamment de quitter cette Cour, ils ne le font pas. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent être à l'intérieur, parce qu'il est, à leur sens, plus facile d'agir sur cette Cour et d'essayer de connaître les dossiers, de connaître ses intentions, de savoir comment l'utiliser à un moment ou à un autre, plutôt qu'être à l'extérieur. Bon, en plus, l'Union européenne est très engagée, en fait, l'Europe est très engagée en faveur de la Cour, et donc, pour les États africains, ça serait aussi assez difficile, un signal assez mal vu du côté de l'Europe. Donc, c'est pas aussi simple. Mais c'est utilisé comme une menace.
Valérie Rozou.
Oui, c'est ça. Je pensais justement à la notion de signal en me disant, mais ça serait désastreux. Non seulement un signal désastreux vis-à-vis de l'Europe, dont l'Afrique dépend à beaucoup d'égards, mais aussi un signal désastreux au niveau de sa propre population. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais pour qui, pour quel visage, en fait, pour quelle fin la Cour est-elle un moyen? Puisque malheureusement, ou pas malheureusement, j'en sais pas, je ne sais pas, c'est comme ça. La justice n'est pas une fin en soi, elle devient un moyen, puisqu'on n'est pas dans l'absolu. Alors, pour quelle fin est-elle utilisée? Non. Moi, j'ai envie de dire pour quel visage, à qui on pense quand on pense à la justice. Bon, j'imagine que c'est pas nos visages à nous ici à Bruxelles, Paris, Genève, mais les visages des victimes et de leur entourage. Et donc, quitter la Cour, j'imagine que pour les chefs d'État africains, c'est quand même donner un signal désastreux à une population qui a beaucoup, beaucoup besoin de symboles en termes de réparation. Réparation toujours attendue et jamais arrivée.
Alors, vous faites remonter, Valérie Rozou, la notion philosophique que je pensais aborder, mais je profite et je rebondis dessus. Effectivement, la question centrale pour les sociétés qui tentent de sortir de conflits sanglants, c'est justement de trouver les moyens de vivre à nouveau ensemble. Et vous posez la question, pour quelle fin la Cour est-elle un moyen? La justice internationale, est-ce qu'elle permet cette réconciliation? Alors, enfin, peut-être réconciliation, mais c'est déjà aller à un niveau autre. Réparation, Stéphanie Maupas?
Alors pour l'instant, pour ce qui est de la Cour, le bilan étant ce qu'il est, c'est-à-dire assez faible, hein. Il y a eu 3 jugements rendus depuis sa création et seuls 2 ont été condamnés. Il y a eu beaucoup de non-lieux parce que les enquêtes étaient très faibles et donc beaucoup de dossiers ont été rejetés par les juges. Donc du coup, il y a quand même une certaine déception par rapport à ce qu'elle peut apporter, en tout cas au niveau de la transition entre la guerre et la paix. Elle pourrait avoir un rôle, encore une fois je reviens sur l'exemple en fait du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, où je ne suis pas sûre que cette justice ait permis de réconcilier, mais je crois que ce sont des objectifs assez hauts et que finalement cette réconciliation appartient à ceux qui ont vécu la guerre, à ceux qui ont commis les crimes et ceux qui les ont subis. Mais le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a en quelque sorte, il me semble, été un pushing ball entre les victimes et les bourreaux, entre les différentes populations. Et finalement, en quelque sorte, ça les a, disons que les populations, en critiquant le travail du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, soit parce que les peines étaient jugées trop légères, soit parce que certains estimaient que le tribunal était biaisé et qu'il n'enquêtait que, par exemple, contre les Serbes et pas assez contre les Bosniaques ou les Croates. Du coup, le tribunal était en quelque sorte un pushing ball contre lequel tout le monde se retournait. Alors, c'est pas une réconciliation, mais c'est un semblant d'unité. En tout cas, ce tribunal a existé, existe encore pour une vingtaine d'années. Donc, c'est peut-être une sorte de zone tampon, en fait, entre les populations concernées.
Valérie Rozou.
C'est intéressant, j'ai plein de choses à dire, j'ai l'impression qu'on pourrait discuter pendant des jours et des nuits. Oui, avoir un ennemi commun, ça aide beaucoup, hein. Entre la France et l'Allemagne, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut en termes de générosité, d'altruisme politique, c'était surtout le fait que l'Union soviétique était devenue l'ennemi et c'était plus l'autre qui était l'ennemi, qui a favorisé un rapprochement. Alors, est-ce que la Cour peut constituer un ennemi commun? Enfin, en tout cas, le tribunal l'a fait. Peut-être, ça me semble en tout cas temporaire. Ce qui me paraît problématique par rapport au TPI, la haie pour l'ex-Yougoslavie, c'est un effet retour de culpabilité collective. Il me semble qu'un des objectifs de tout tribunal, c'est de casser la notion de culpabilité collective, de venir montrer bien tous les Belges, tous les Flamands, tous les Serbes ne sont pas coupables. On va maintenant préciser qui sont les responsables, on va donner des noms, on va revenir sur une histoire des faits, pas l'histoire de l'historiographie, mais l'histoire du tribunal. Et ici, ce qui a été un peu dommage, me semble-t-il, c'est que par la perception du tribunal pour l'ex-Yougoslavie a montré qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas à Belgrade, en Serbie, où j'ai été à plusieurs reprises, il y avait cette sensation qu'ils avaient été ciblés de manière absolument partielle, et donc ils se sentaient tous pris dans le même panier. Donc à la place de lutter contre la culpabilité collective, ça a pu renforcer, d'une part, eux, ce qu'ils ont perçu, c'est une forme de stigmatisation, et d'autre part, une sensation de « nous ». À un moment où ce nous aurait peut-être été, il aurait peut-être été utile qu'il soit mis en miettes ou en tout cas qu'il devienne de plus en plus faible, fragile.
Alors finalement, la question qui se pose, si on va un petit peu plus loin pour terminer cette première partie d'émission, Stéphanie Maupas, les jugements, les condamnations, vous l'évoquiez tout à l'heure, il est davantage question de chefs de milice, on est sur des seconds couteaux. Est-ce que finalement tout cela ne génère pas une énorme frustration?
Oui, alors je voudrais préciser quand même, il n'y a pas que des seconds couteaux qui ont été poursuivis par la Cour, puisqu'il y a aussi l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, il y a le président Omar al-Bashir du Soudan.
On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Oui.
Donc c'est pas uniquement que les seconds couteaux, mais c'est la logique, en fait, le contenu même des accusations qui donne une impression de poids, de mesure. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, à propos des chefs de milice, c'est que la Cour aurait très bien pu poursuivre ces chefs de milice, mais en mettant en exergue le rôle des puissances régionales dans le financement de ces milices, dans l'armement de ces milices, et puis dans le pillage des sous-sols de l'Est du Congo. Or, la Cour ne l'a pas fait, elle l'a évité. On aurait pu, pour prendre par exemple le cas du vice-président de la RDC, il est poursuivi pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique. Donc on ne touche pas encore une fois au Congo. On le poursuit, donc en le poursuivant, il est un peu mis hors jeu de la vie politique congolaise, et en même temps on le poursuit sur des faits qui d'abord sont très difficiles à prouver pour le procureur, puisqu'il n'est pas sur le terrain. Et ensuite, eh bien, qui sont très limités par rapport à la réalité du personnage, par rapport à la réalité des guerres. Donc c'est cette façon, en fait, de limiter les accusations qui fait qu'il y a un deux poids deux mesures et qui fait qu'on en vient non plus à avoir une lecture judiciaire de ces différentes poursuites, mais une lecture politique.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Valérie Rozou et Stéphanie Maupas dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la Cour pénale internationale. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Bruxelles. Valérie Rozou, philosophe et politologue, enseignante à l'Université catholique de Louvain. Et en studio, Stéphanie Maupin, journaliste, auteur pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui de Le Joker des puissants, qui vient de paraître aux éditions Don Quichotte, un ouvrage sévère sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Je l'évoquais en introduction de la première partie de l'émission, le procès de Laurent Gbagbo qui démarre donc dans quelques jours. Le 28 janvier prochain, Laurent Gbagbo, pour mémoire, est le premier ex-chef d'État à comparaître devant la Cour pénale internationale. Est-ce que ça peut constituer un précédent ? On pense bien sûr au président soudanais Omar el-Bashir qui, depuis 2009, est le premier chef d'État en exercice poursuivi pour crimes contre l'humanité et pour génocide au Darfour. Personne ne l'a encore jamais arrêté. Là aussi, ça a d'une certaine manière un peu décrédibiliser la Cour pénale internationale qui apparemment manque de moyens de faire appliquer ses mandats d'arrêt, manque de moyens ou manque de volonté politique. Je vous pose la question, Stéphanie Maupin.
Alors, la Cour n'a pas de force de police propre, hein, donc elle a besoin de la coopération des États pour arrêter les suspects. Et dans le cas d'Omar el-Bashir, aucun État n'a accepté de l'arrêter lorsqu'il s'est présenté sur leur sol. Alors, pour certains États, d'une certaine façon, ils n'ont pas forcément l'obligation, puisqu'ils n'ont pas ratifié le traité de la Cour et donc ne sont pas obligés de coopérer avec elle. Pour d'autres États et de nombreux États en Afrique, ils ont cette obligation de coopérer, mais ils ont décidé de ne pas coopérer. Et l'Union africaine a soutenu cette décision de non-coopération. Et du coup, donc Omar al-Bashir a pu circuler et se rendre dans différents pays. Alors malgré tout, ça a quand même compliqué un petit peu sa marge de manœuvre, hein, puisque à chaque fois qu'il doit partir quelque part, il doit s'assurer qu'il ne va pas être arrêté. Mais pour l'instant, rien n'a été fait.
Et personne n'a jamais trahi.
Alors après, c'est compliqué hein, pour un État d'aller arrêter un autre chef d'État d'un pays souverain et de l'envoyer à la Cour pénale internationale. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je ne sais pas si on le verra un jour. Je crois que les États, en tout cas aujourd'hui, ne sont pas prêts à livrer le chef d'un autre État. Donc voilà.
Valérie Rozou.
Je comprends très bien que la souveraineté nationale, quand on est soi-même chef d'État, est fondamentale. Donc on est ici dans une espèce de zone d'intersection entre différents fleuves, comme ça, comme à la convergence de deux fleuves, où un fleuve serait celui de la souveraineté nationale, 19e, 20e siècle, et puis j'espère un autre fleuve qui est basé aussi sur une notion de justice universelle, en tout cas qui tend vers ça, qui garde ça comme horizon d'attente vers lequel tendre. Et je me souviens quand j'avais été à Koblenz en Allemagne, on voit, c'est très frappant du ciel, on voit à un moment où il y a une convergence de deux fleuves qu'il faut beaucoup beaucoup de temps pour qu'une couleur commune apparaisse. Pendant très longtemps, après le confluent, on sent les deux fleuves qui sont de deux couleurs différentes. Donc moi, ça ne m'étonne pas que la transition soit longue. C'est sans doute plus une question de génération qu'une question d'années. Parce que là, beaucoup de chefs d'État se tiennent. Ce sont des proches, ils négocient ensemble, ils se tiennent pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais il y a beaucoup de liens. Donc je ne suis pas étonnée en tout cas.
Alors l'image de Valérie Rozou et Stéphanie Maupin est belle, hein, ces deux fleuves qui mettent du temps avant d'avoir la même couleur. Est-ce qu'on peut parler de problème de jeunesse en ce qui concerne la Cour pénale internationale, dont on rappelle qu'elle est entrée en fonctionnement en 2002, ça fait donc 14 années.
Alors, elle est jeune effectivement, mais la justice internationale existe quand même depuis longtemps. Les premiers tribunaux internationaux, le tribunal de Nuremberg pour juger les chefs nazis, et puis Tokyo pour les Japonais, donc c'est quand même une histoire qui est assez longue avec déjà des actes pris avec les tribunaux aussi pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Donc, à mon avis, c'est une jeunesse toute relative et souvent la CPI s'appuie là-dessus pour justifier ce qui ne fonctionne pas. Moi, je crois qu'elle a très mal démarré et qu'il va lui être assez difficile de retrouver un chemin un petit peu plus équilibré, justement, entre le judiciaire et le politique, de réussir à s'imposer. Surtout qu'on n'a pas le sentiment que ces acteurs ont cette volonté-là. Ils restent, malgré un bilan qui est quand même pas très glorieux, les acteurs, me semble-t-il, restent dans cette relation avec les États qui est une relation où la Cour se plie à ce que veulent les États et en tout cas, tente de les rassurer, de ne pas leur faire peur, et avance comme ça, très très lentement, au risque de ne pas rendre justice.
Alors, sur le démarrage de la Cour, Valérie Rousseau, je ne sais pas si vous souhaitez réagir là tout de suite. Vous...
Oui, mais si, il y a une question intéressante. C'est le procureur général, Luis Moreno Ocampo, qui disait « la justice est en marche ». Bon, je pense qu'on en est loin quand on voit le diagnostic posé dans l'ouvrage. Mais est-ce que, pour autant, on est de l'autre côté du continuum, qui serait qu'on est dans l'illusion complète avec une cour Mickey Mouse? C'est Saïd Kadhafi qui appelait la cour comme ça, j'ai lu là dans l'ouvrage. Donc, est-ce qu'une moralité sélective est préférable à un cynisme universel? Est-ce qu'il y a des petites avancées partielles qui valent quand même... plus que l'absence de cour? Je ne sais pas, c'est une question que j'ai envie de renvoyer à Madame Maupas.
En tout cas, la présence de la cour, à mon avis, enfin de ce que j'ai observé, n'a pas entravé une transition ou n'est pas allée contre la paix. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas. Il y a des résultats qui me semblent sont assez marginaux, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est en construction. En fait, les États ont primauté sur la cour, donc c'est eux qui, au premier chef, doivent juger. Et quand ils ne jugent pas, la Cour s'empare des dossiers. Et ça, c'est une notion très importante parce que ça fait que beaucoup d'États ont adapté leurs codes pénaux aux crimes internationaux. Donc, ils peuvent désormais juger les auteurs de crimes contre l'humanité. Ils ont fait pas mal de réformes au niveau judiciaire dans beaucoup d'États. Et ça, c'est pas une volonté de la part des États au départ. C'est pour pouvoir, le cas échéant, échapper à la Cour. Et sa présence et le symbole même de la Cour est encore craint. Et donc, les États essaient d'adapter et de juger eux-mêmes les auteurs de crimes. Donc, je pense que ça, c'est une avancée, oui.
Alors ça, ça fait partie de ce que la Cour a permis de changer. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments. Vous disiez, Stéphanie Maupas, que la Cour pénale internationale avait très mal démarré. Finalement, comment démarrer correctement quand des puissances comme la Russie, la Chine, et particulièrement les États-Unis, sont les grands absents de cette Cour pénale internationale? Ils n'ont toujours pas rejoint le statut de Rome. Est-ce qu'on peut parler de rejet de la Cour par les grandes puissances?
En tout cas, ils veulent la garder sous contrôle, c'est certain. Alors, un rejet, il n'y a pas de rejet ouvert de la Cour, puisque c'est difficile d'aller contre l'idée même de la Cour. Personne ne s'élève en disant « je suis contre la fin de l'impunité ». Mais il y a une volonté de contrôle qui est là dès le départ, dès les négociations de Rome qui aboutissent au traité de la Cour pénale internationale. Et cette volonté, donc on la voit bien côté américain, c'est assez intéressant, parce que les États-Unis donc n'ont pas ratifié le statut de cette Cour. Pour pouvoir se prémunir de toute poursuite, que leurs soldats ou leurs chefs d'État ne se retrouvent pas un jour devant des juges étrangers.
Mais c'est surtout les chefs d'État qui les préoccupent davantage que les soldats américains.
Oui, beaucoup plus, beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ont finalement trouvé, après un départ de plusieurs années où ils s'opposaient très très fermement à la Cour, où ils menaçaient même d'intervenir aux Pays-Bas si l'un de leurs soldats devait être arrêté, donc d'aller le délivrer militairement. Ils ont progressivement changé vers les années 2010. Et ils ont décidé que, bien, puisqu'ils étaient protégés de poursuites de cette cour, ils pouvaient y trouver aussi leurs intérêts. Donc, sur certains points, ils ont coopéré avec cette cour. Ils ont, par exemple, livré un ancien chef de l'armée de résistance du Seigneur, qui s'était rendu en Centrafrique. Ils ont accepté aussi de livrer un milicien de l'Est congolais, Bosco Ntaganda. Et puis, ils sont en fait assez actifs avec la Cour.
Quand il y va de leurs intérêts.
Quand il y va de leurs intérêts, voilà. À chaque fois qu'ils trouvent avec la Cour le moyen de faire avancer leurs intérêts internationaux, on va dire, eh bien, ils coopèrent avec cette Cour. Par contre, lorsqu'elle va trop loin à leurs yeux, ils ne coopèrent plus. Et on l'a vu, par exemple, lorsque la Palestine s'est tournée vers la Cour, a ratifié son traité et que la procureure a annoncé qu'elle ouvrait un examen préliminaire. C'est pas une enquête, c'est une étape préalable qui n'aboutit pas forcément sur quelque chose de judiciaire. Mais les États-Unis ont protesté, ont déclaré que la Palestine n'était pas un État et qu'à ce titre-là, elle ne pouvait pas, la Cour ne pouvait pas enquêter sur les crimes commis sur son territoire. Ça a été quand même assez ferme, la réponse américaine. On voit par exemple qu'il y a aussi un examen préliminaire sur l'Afghanistan qui n'a jamais abouti sur une enquête parce que ça dure déjà depuis 8 ans. Et là aussi, les forces américaines sont impliquées. Et donc, il n'y aura probablement jamais d'enquête en Afghanistan parce que les Américains disent à la Cour de ne pas intervenir là-bas.
Alors, de fait, sur la question israélo-palestinienne, il est vrai aussi que les Palestiniens sont particulièrement prudents, en sachant aussi qu'il y a une notion de divorce avec Israël, alors que les négociations sont toujours en cours. Valérie Rozou, un commentaire.
Oui, c'est intéressant. La première partie de l'émission, me semble-t-il, était très axée sur la notion de peur, à beaucoup d'égards. Et ici, moi, c'est la notion d'image qui ressort un petit peu pour moi, qui est que quand les USA voient qu'il est possible de coopérer avec la Cour dans leurs intérêts, quelque part, c'est pas mal pour l'image de marque des États-Unis. J'avais un exemple peut-être qui date d'avant la mise en place de la Cour, mais qui dit exactement la même logique, qui est que la Belgique, donc la Grande Belgique, avait été quelque part à la pointe du combat contre l'impunité au tournant des années 2000 en se dotant des législations à l'époque les plus avancées en droit international, donc notamment une loi qui accordait la compétence universelle. Etc. La question, c'était évidemment l'image du pays qui avait été mise à mal, notamment par l'affaire Dutroux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces scandales. Donc c'est pour des raisons à la fois d'image sur la scène extérieure et d'image sur la scène intérieure, avec une population désabusée et avec une identité nationale mise à mal aussi. Le Monde, à l'époque, titre « La Belgique donne le bon exemple », elle prend des positions en pointe, etc. etc. Et puis, dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? La Belgique, qui a voulu se faire plus grosse que le bœuf, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, tout a dû être limité. Une compétence dite universelle, c'est, après quelques années, a dû être très très vite limitée. Je vous donne deux exemples pour Israël et les États-Unis. Il y a une décision qui avait été prise par Ariel Sharon, à l'époque, de renoncer à sa visite en Belgique parce qu'il faisait l'objet d'une plainte déposée contre lui par des survivants du massacre de Sabra et Shatila. C'était extrêmement embarrassant. Les milieux diplomatiques et médiatiques israéliens étaient scandalisés. Ils ne tarissaient pas d'insultes par rapport à la Belgique. Ils rappelaient en permanence que les Belges, encore la culpabilité collective, avaient été dirigés par Léon de Grel et donc avaient bien collaboré avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que les Belges avaient commis des crimes immondes quand ils gouvernaient le Congo. Deuxième exemple, qui a vite permis que le zèle belge se calme, c'est la détérioration des relations entre la Belgique et les USA à la suite des plaintes déposées à l'encontre de George Bush, senior, Colin Powell, Dick Cheney et Tommy Franks, qui était général à l'époque. Et donc là, ça a été très clair. Les menaces de représailles ont été explicites. On a discuté de la délocalisation de l'OTAN de Bruxelles vers un autre pays. Et puis la Chambre de commerce des USA, donc, est quand même la première fédération professionnelle de la planète, a envoyé une lettre au président de la Chambre des représentants ici en Belgique. J'ai la phrase sous les yeux, qui souhaitait vivement que la Belgique abandonne la loi sur la compétence universelle afin que les entrepreneurs américains puissent continuer à entretenir des relations commerciales avec le Royaume. Et très très vite, tout est rentré dans l'ordre. La loi a été modifiée. On ne pouvait plus faire référence à cette loi que lorsqu'il s'agissait de citoyens belges. Enfin bon, on avait tout à fait réduit la portée. C'était les mêmes blocages, les mêmes frustrations, les mêmes risques qui étaient les vrais risques politiques.
Voilà, c'est là aussi, on peut parler de la France, Stéphanie Maupa, qui a ratifié le statut de Rome en l'an 2000, et Valérie Rozou qui parlait de la notion de compétence universelle. La France qui est par ailleurs le quatrième contributeur au budget, mais qui 10 ans après la ratification continue à être un refuge pour les criminels, contrairement à ses engagements internationaux. Là aussi, c'est du deux poids deux mesures.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que la France, en fait, a mis beaucoup de temps à créer sa propre cellule crime de guerre. On a vu en Europe, beaucoup d'États sont dotés de cellules d'enquête, en fait, pour poursuivre ceux qui décideraient de trouver asile sur leur terre et qui seraient auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. La France a mis énormément de temps. Le premier procès qu'elle a tenu à l'encontre d'un Rwandais, c'était il y a un an exactement. Donc oui, il y a eu une frilosité, il y a eu... Enfin, ça a commencé avec le Rwanda, des réfugiés rwandais qui étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité. Les enquêtes en France n'avançaient pas. Et effectivement, là aussi, il y avait des raisons politiques. On ne voulait pas engager de tels procès sur le territoire français.
Alors, quels pourraient être, Stéphanie Maupa, les grands dossiers à venir pour la Cour pénale internationale ? On a évidemment parlé de l'Afrique. Cette notion de, finalement, pouvoir limiter de la Cour pénale internationale, on a parlé du président soudanais qui n'a toujours pas été arrêté, mais finalement, une Cour pénale internationale plus forte, plus puissante, peut-être le président syrien y aurait réfléchi davantage par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si la Cour pénale internationale avait davantage de moyens, davantage de puissance. Peut-être Valérie Rozou.
Oh, je ne sais pas si c'est lié aux moyens de la Cour elle-même ou simplement aux protections dont il bénéficie. Je crois que c'est plutôt lié, semble-t-il, au rapport de force, encore une fois. qui n'est pas très étonnant en relations internationales, hein, puisque ce qui est quand même assez intéressant, c'est les aspirations qui sont au fond de cette demande de justice universelle. Ça dit bien les besoins de l'être humain quand même. Et en même temps, ce sont des aspirations qui sont touchantes, mais qui semblent aussi assez naïves quand on se replace sur des analyses de relations internationales où on sait que tous les choix sont des choix de type aronien, où on choisit entre le préférable et le détestable et pas entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste ou l'injuste aussi.
Alors, pour terminer cette émission, Stéphanie Maupas, on a évoqué, j'y reviens, les limites de la Cour pénale internationale. La justice internationale reste et demeure, malgré tout, une notion indispensable.
Oui, je crois qu'il n'y a pas de raison que cette notion disparaisse, dans la mesure où ça n'a jamais été une entrave à la paix. Donc oui, c'est un progrès. Maintenant, je ne crois pas que cette justice internationale puisse régler tous les aspects d'une transition politique, comme la réconciliation. Et je crois qu'aussi, il faut peut-être avoir des ambitions pour elle à sa juste mesure. On ne peut pas lui demander de régler totalement les après-guerres. Mais c'est un élément de l'après-guerre.
On est trop ambitieux pour la Cour pénale internationale.
Oui, je crois, par moment, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un juge pour régler une situation de conflit ou pour intervenir. Il y a eu des expériences de justice comme la Commission Vérité en Afrique du Sud qui ont très très bien fonctionné et qui ont beaucoup plus participé de la réconciliation que ne l'aurait fait, je pense, un tribunal international qui vient là pour juger et pour régler les choses de façon punitive. Il y a peut-être plus de possibilités de dialogue ou de voies différentes. Et je crois que ben, ça dépend des conflits, ça dépend des situations, des pays, des cultures. Voilà, on peut pas toujours voir un juge derrière toute situation.
Valérie Rozou.
Oui, la Commission pour la vérité et la réconciliation en Afrique du Sud, elle a aussi soulevé d'énormes attentes puisqu'il s'agissait de trouver effectivement une voie médiane entre le tout pour la paix ou le tout pour la justice dans ce dilemme paix versus justice, hein, qui est le dilemme auquel font face tous les gens de la reconstruction quand les armes se taisent. Et ici, bon, peut-être que donne l'impression d'avoir été remarquable, elle est remarquable. Il n'y a pas eu de bain de sang en Afrique du Sud, alors qu'après des dizaines d'années d'apartheid, on aurait pu croire que ça serait inévitable. Cela étant, les gens qui ont été parmi les plus grands soutiens de la Commission Vérité et Réconciliation, 10 ans après, quand on retourne près d'eux, sont extrêmement déçus, amers, frustrés, en colère, parce que les réparations n'ont pas suivi. Donc ça reste, je pense, la question de la justice après des crimes dont Arène disait qu'on pouvait ni les punir ni les pardonner. Hein. Après ce type de crime, et surtout dans les guerres civiles, puisque les gens doivent vivre ensemble après ces crimes, on a une tendance, on a une envie de pouvoir rendre l'irréversible réversible. Que ce soit par la réconciliation qui permet de tourner la page, ou par la justice qui permettrait de rétablir une forme d'univers sain. Cela étant, non, il y a une part de tragique et d'irréversible qui va durer. Il y a un millefeuille de colère, de souffrance, de ressentiment qui me semble légitime et qu'on ne pourra pas écraser. Donc les attentes sont immenses. On attend du pénal, on attend presque du psychologique, du thérapeutique. On attend des cours qu'elle répare des vivants, pour reprendre la phrase de Tchekhov. Alors, est-ce qu'on peut réparer l'histoire? C'est un titre de Garapon. Moi aussi, exactement comme Stéphanie Maupas, je voudrais appeler une forme de modestie, pas de résignation. Je pense que la justice comme horizon d'attente, c'est fondamental, fondamental. Mais de modestie, vraiment, soyons volontaires, soyons déterminés, mais ne chargeons pas trop fort. En fait, on charge la cour de nos propres attentes aussi.
Modestie sans résignation, c'est avec ces mots que nous terminons cette édition de Géopolitique. Merci à nos invités par téléphone depuis Bruxelles, Valérie Rozou, philosophe et politologue, enseignante à l'Université catholique de Louvain, et en studio, Stéphanie Maupas, journaliste, auteur pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, de Le Joker des puissants, qui vient de paraître aux éditions Don Quichotte, et un ouvrage sévère, vous l'avez compris, sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.